Chapitre 22. Le capitaine O attendit que Charlène ait quitté le service de la criminelle, puis elle retourna dans le bureau de Didi, referma la porte et se laissa tomber dans le fauteuil d'en face.
« Est-ce qu'il serait possible qu'on ait une veine pareille ?»
demanda-t-elle avec incrédulité.
« Quoi ? Je rêve ou Charlène Grant répond exactement au profil de notre assassin ?»«
Je ne dirais pas que c'est de la veine, » objecta Didi d'un air songeur. « Souviens-toi que je l'ai rencontrée dans les parages du deuxième meurtre. Quand je lui ai couru après, elle a prétendu qu'elle voulait voir à quoi je ressemblais, au cas où je devrais enquêter sur son assassinat. Mais c'est peut-être seulement la première idée qui lui a traversé l'esprit. Elle a mis en avant son passé mouvementé pour détourner mon attention du fait qu'elle traînait au pied d'une scène de crime toute fraîche. C'est quoi le problème avec ses mains et sa gorge? On dirait qu'elle s'est fait agresser.
La boxe. Donc elle croit sérieusement que quelqu'un va essayer de la tuer le 21.
Randy Menck et Jackie Knowles sont sérieusement mortes. Le capitaine O se tut, puis ouvrit de grands yeux.
Le mobile. Tu vois le truc. Charlène est opératrice au commissariat. Elle répond aux appels, elle entend ses gamins. Peut-être qu'elle voudrait les aider, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre. En attendant, elle fait de la boxe, du tir. Elle acquiert des compétences. Et puis, et c'est même encore plus important, elle compte les jours qui lui restent à vivre. Autrement dit, à partir d'un certain moment, qu'est-ce qu'elle a à perdre ?
Didi se figea, regarda sa collègue. Charlène décide de tirer parti du peu de temps qu'elle estime lui rester. Peut-être de jouer les redresseuses de tort après les mauvais traitements subis dans son enfance.
Elle vole au secours d'autres enfants, renchérit O. Elle fait ce qu'elle aurait certainement bien voulu qu'on fasse pour elle quand elle avait cet âge et que sa petite maman d'amour lui injectait de l'insuline.
De l'insuline ?
Oh, une autre affaire sur laquelle j'ai bossé. Un beau-père indigne, en fait. Diabétique. L'idée lui était venue d'injecter de l'insuline à ses belles filles, deux magnifiques jumelles. Leur glycémie s'effondrait et quand elles étaient à moitié dans le coma, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Ensuite, il leur faisait avaler du glaçage en bombe pour faire remonter leur glycémie. Plus tard, quand sa technique a été rodée, il laissait traîner des bombes de glaçage sur le pan de travail rien que pour les perturber.
Didi la regarda. « Tu fais un boulot abominable. »«
Non, » répondit la jeune enquêtrice avec gravité. « Ce sont ces affaires qui sont abominables. Mon boulot qui consiste à envoyer le beau-père indigne 20 ans derrière les barreaux et à m'assurer que ses petites filles seront définitivement en sécurité, c'est plutôt jouissif. J'aurais cru que tu serais la première à le comprendre. »
Un point pour toi.
Bon, revenons-en à nos moutons.
Mobile, moyen, occasion.
C'est clair que jusque-là, on verrait plutôt bien Charlie dans le rôle de la justicière.
Didi regarda la feuille de papier qu'elle tenait à la main, la déplia et l'attendit au capitaine O.
Mais l'écriture ne correspond pas parfaitement.
Pas de lettre aplatie, convint O.
En même temps, elle a dû prendre la plume sous notre regard à toutes les deux. Elle n'est pas débile.
Si c'est elle qui a écrit les autres messages, tu penses bien qu'elle s'est arrangée pour déguiser son écriture.
Elle a écrit en script, pas en cursive comme dans les messages. Mais regarde, les lettres sont impeccables, tracées avec soin.
Didi se tourna vers une pile de papier sur son bureau et ne put pas se retenir de jeter un œil à sa montre en songeant à la fois à la somme de travail qu'il lui restait à abattre et à l'avion de ses parents qui atterrirait d'ici quelques heures. Elle fouilla la pile de documents jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, les photocopies des deux messages laissés sur les lieux du crime. « Tout le monde doit mourir un jour. Courage. » Elle disposa les deux photocopies sur la moquette bleu-gris entre elle et O. Celle-ci intercala l'échantillon d'écriture que Charlène venait de leur fournir entre les deux autres feuilles et elles les étudièrent ensemble.
« Rosalind Grant, » lut le capitaine O.
« Carter Grant, qui est-ce ? »
Charlène Rosalind Carter Grant. Peut-être que ses deuxième et troisième prénoms sont un hommage à son père et à sa mère.
J'ai bien cru qu'elle n'allait pas nous donner leur nom.
Mon charme a encore agi.
Regarde les N, fit remarquer le capitaine O au bout d'un instant. D'abord dans le monde, écrit en cursive par l'auteur du message, et ensuite dans le Grant, en script de Charlie. Je trouve qu'ils se ressemblent.
Didi était sceptique. Ce sont des N, quoi.
L'arche est bien ronde. Les deux jambes sont des parallèles quasi parfaites. Écris donc un N, qu'on voit si le sommet est bien rond et les côtés bien parallèles.
Histoire de faire avancer le débat, Didi fit un essai, d'abord en cursive, puis en script. Dans un cas comme dans l'autre, son N était affreux, comme un V renversé. Pas de sommet joliment arrondi, pas de côté élégamment parallèle, juste un petit gribouillis replié sur lui-même. «
Tu as une écriture de médecin ?» constata O.
« Dans ma famille, c'est un compliment. » Par association d'idées, Didi jeta un nouveau coup d'œil furtif à sa montre. « Entendu, le N de Charlène ressemble sûrement plus à celui du message que le mien, mais ça ne constitue pas encore un motif d'arrestation. Tu pourrais demander à ton expert en écriture de rédiger un rapport ?»
Dont il m'a déjà prévenu qu'il ne serait pas recevable par les tribunaux parce que la graphologie est considérée comme une pseudo-science.
Il ne s'agit pas de graphologie. Faire l'hypothèse que le rédacteur d'une lettre est psychorigide, ce serait de la graphologie. Ça, c'est purement et simplement de l'expertise judiciaire en écriture. La personne qui a écrit la lettre A a très probablement aussi écrit l'échantillon B.
Mais il lui faut plusieurs échantillons.
Cela dit, se ravisa Didi, je vais faire une copie des noms écrits par Charlène. Ça lui mettra le pied à l'étrier. Mais il aura peut-être besoin de quelques jours pour nous faire ça. En attendant, il nous faut une preuve plus tangible.
Un pistolet encore chaud.
L'ironie du sort, c'est qu'on vient de le lui rendre.
Pardon ?
Son 22. Elle l'avait laissé en dépôt à l'accueil.
Sérieux ?
Sérieux. Mais pas moyen de demander une expertise balistique en l'absence de motifs raisonnables. Je te le dis, les droits de la défense nous compliquent tous les jours un peu plus la tâche.
Didi examinait toujours les feuilles, intriguées.
Rosaline Grant. Carter Grant. Charlène Rosaline Carter Grant. Pourquoi ces noms ? Qu'essayait de leur dire Charlène ?
Je l'aime bien, murmura-t-elle. Je suis la première surprise, mais j'aime bien cette fille, et j'aimerais autant ne pas avoir à l'arrêter pour meurtre.
Le capitaine O s'adossa dans son fauteuil, joignit le bout des doigts.
« Tu veux passer la main ? Je pourrais piloter l'enquête. »
Didi faillit en rire.
« Pourquoi ? On ne te donne pas assez de boulot à la brigade des mœurs ? D'abord, tu demandes à bosser sur cette affaire, et maintenant tu veux la piloter. »
« Je prends mes responsabilités au sérieux.
Tandis que moi, je suis une tire au flanc. »
Disons que tu as d'autres obligations maintenant.
Est-ce que c'est une manière polie de me dire que je suis une mère de famille ?
Il y a des réalités. L'heure, c'est l'heure quand il faut aller chercher bébé.
Je vais t'en donner une autre de réalité. Le secret dans ce métier, ce n'est pas la quantité de travail. C'est la qualité.
Est-ce que c'est une façon polie de me dire que j'ai moins d'expérience que toi ?
Parfaitement.
Le capitaine O voulut répondre quelque chose, se retint.
« Un point pour toi, » dit-elle enfin.
Reprenons depuis le début. Didi se força à regarder sa nouvelle partenaire aux dents longues plutôt que la pendule murale. Charlène Rosaline Carter Grant. C'est, de toute évidence, où vivait la deuxième victime, Stephen Laurent, puisque c'est dans ce quartier que je l'ai rencontré. Détient un permis de port d'armes pour un 22, même calibre que l'arme du crime, et se prétend capable de mettre dans le mille à 20 mètres.
« Sportive, » ajouta O.
« Un petit format, pas menaçant. Un pédophile n'aurait aucune raison de s'attendre au pire en lui ouvrant sa porte. »«
Relativement jeune, » continua Didi. « Presque encore un corps d'enfant. Raison de plus pour qu'un pervers ne lui claque pas tout de suite la porte au nez. Son boulot au commissariat lui donnerait les moyens de se renseigner sur les pédophiles. Elle peut entendre parler d'eux sur le scanner ou par les appels qu'elle traite. » Consulter les banques de données de la police, le fichier des délinquants sexuels.
L'accès aux informations ne poserait pas de difficultés, convint Didi. Quant au profil établi par le graphologue,
notre dose quotidienne de charlatanisme.
Elle est maniaque, ça correspond.
C'est quand même bien gentil de sa part d'avoir redressé mes cadres.
Carrément psychorigide, oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fout avec ses cheveux ? À ce stade, ce n'est même plus une queue de cheval. Elle les étrangle carrément dans un élastique. Pas un qui dépasse.
Coiffure très stricte, mais tenue très négligée. Elle nage dans ses vêtements. Peut-être est-ce sa méthode pour paraître plus grande et plus baraquée qu'elle ne l'est.
Jolis yeux bleus, poursuivit O. Les cheveux lâchés, mieux habillés, elle persuaderait la plupart des hommes, pédophiles ou non, de la laisser entrer chez eux.
Mais est-ce qu'elle aurait abandonné le chiot ?
Pardon ?
Chez Stéphane Laurent. L'assassin a laissé un jeune chiot livré à lui-même. C'est une chose de tuer un pervers présumé, c'en est une autre d'abandonner un chiot sans eau ni nourriture. Charlène doit éprouver une certaine compassion pour les animaux puisqu'elle a apparemment recueilli un chien errant.
Alors est-ce qu'elle aurait laissé le chiot? Un risque calculé. Il y avait fort à parier que le corps de la victime serait retrouvé assez vite et le chiot secouru. Possible, concéda Didi. Mais ce détail la turlupinait. Il ne cadrait pas très bien avec le reste. Elle a été une enfant maltraitée, continua O, donc elle s'identifie facilement aux victimes. D'autant qu'elle se sent impuissante. Ses deux amis ont été assassinés, la police n'a aucune réponse. Elle est convaincue d'être la prochaine sur la liste. Elle a beau essayer de se préparer et c'est le sentiment d'attente qui domine. On s'apprête à la tuer et elle ne peut strictement rien faire. Alors qu'en s'attaquant à des pédophiles, elle éprouve un sentiment de puissance. Désormais, c'est elle qui domine, qui agit, qui châtie les coupables. Dans le genre anxiolytique, faire le coup de feu est sans doute plus efficace que prendre du Xanax. Sauf si c'est elle qui a tué ses amis, souligna O. Possible. O l'observa. Mais tu n'y crois pas. Didi haussa les épaules, essaya de mettre des mots sur ce qui n'était en définitive qu'une intuition. Comme me l'expliquait encore ce matin un ancien profiler, deux meurtres ne fournissent pas assez de données pour une analyse approfondie. Personne ne sait si Charlène est réellement une cible ou même s'il y aura un troisième meurtre le 21. Mais je crois que Charlène en est persuadée, à cause de la couleur de ses doigts et des bleus dans son cou. Elle s'entraîne vraiment comme une tarée. Elle est prête à se faire agresser, rouer de coups et étrangler parce qu'elle croit en avoir besoin pour survivre au 21 janvier. Et si elle est réellement persuadée de mourir dans quelques jours, ça l'encourage à prendre quelques libertés avec la loi. À venger les jeunes victimes impuissantes du monde entier. Didi hocha la tête, leva les yeux vers haut. Une chose est certaine.
Quoi ?
Si Charlène Grant est réellement l'assassin, il ne lui reste que 2 jours. Comme elle n'a sans doute rien prévu de faire le 21, ça signifie que dans les 24 heures à venir, un autre pervers va mordre la poussière. Sous les balles du 22 qu'on vient de rendre à Charlène.